Un homme, une ville, Charles Fourier à Paris avec Dominique de Santi par Jean Montalbetti. Troisième émission, le gourou de la butte Montmartre. Réalisation, Daniel Fontanarosa et André Mathieu. Après avoir vécu depuis son installation à Paris en 1825, rue de Richelieu puis rue Joclet dans le quartier de la Bourse, Charles Fourier va s'installer sur la butte Montmartre, rue Saint-Pierre de Montmartre, à partir de 1833. C'est là qu'il va passer les quatre dernières années de sa vie. C'est là qu'avec Dominique de Santi, à travers les ruelles du 19e siècle, comme la rue Sainte-Rustique, nous allons tenter de retrouver la silhouette noble du vieillard de 65 ans, devenu le gourou de la butte Montmartre. L'Eureka de Fourier, je veux dire sa découverte de l'attraction personnelle à partir d'une transposition de la théorie de la gravitation universelle d'Isaac Newton, remonte à 1799. Il va enfin pouvoir faire publier à Paris, en 1834, son grand traité sous le titre de théorie de l'unité universelle. Charles Fourier n'est plus à cette date l'enfant prodigue et révolté de Besançon qui a juré, on s'en souvient, une haine éternelle au commerce, ou bien l'illuminé de Lyon qui se prétendait l'inventeur du calcul mathématique des destinées et se lançait dans des analyses de géopolitique un peu folles. Non, Fourier est pour un groupe de disciples ardents, un génial innovateur, celui qui propose par exemple la percée des isthmes de Suez et de Panama, qui présente un projet de remembrement agricole, qui parle de décentralisation industrielle, de coopérative agricole, de promotion des femmes, d'un minimum garanti de rémunération. C'est aussi, comme nous allons le voir avec Henri Desroches, un fondateur de religion qui voulait réconcilier Dieu et l'homme et dont l'imagination poétique n'a pas fini de faire rêver des hommes et des femmes mal à l'aise dans notre civilisation et qui aspire à un nouveau code social d'attraction, de justice, de vérité, d'unité, selon les termes mêmes de Charles Fourier. Dominique de Santi, nous sommes montés sur la butte Montmartre et nous sommes sur le parvis de l'église Saint-Pierre de Montmartre au coin de la rue Norvin et de la rue du Mont-Cenis. C'est là, ou probablement dans l'une de ces rues, qu'a été le dernier domicile de Fourier. Lorsqu'il arrive ici, c'est déjà un homme âgé, il a plus de 60 ans.
Oui, alors ce qu'il y a de curieux, c'est que même avant sa soixantaine, les gens qui rencontraient Fourier à ce moment-là parlaient d'un vieillard. Et c'est qu'il tenait la tête dans les épaules, ses larges épaules, et qu'il avait de plus en plus ce regard intense, fixe, ce feu fixe dans le regard, qui, au-dessous de ce grand front immense, bombé, et au-dessus de cette bouche crispée qui ne souriait jamais, le vieillissait beaucoup et en faisait une sorte d'halluciné. Lorsqu'il est arrivé ici, rue Saint-Pierre de Montmartre, qui donc devait jouxter l'église, l'église, elle, était en ruine, car on ne l'a reconstruite que dans les années 1850, ce que nous
voyons
à présent.
Pourtant, une église très ancienne, hein, puisque je vois là sur une plaque que c'est un monument
1147.
Qui date du XIIe siècle.
Oui. Du XIIe siècle, il y a eu ici une abbaye de femmes, une abbaye d'hommes, il y a encore maintenant un petit cimetière, le cimetière Saint-Pierre de Montmartre, qui alors était encore, si j'ose dire, en activité et où certainement Fourier se promenait souvent, car il y voyait ce qu'il préférait au monde, les plantes et les chats. Et il habitait une petite chambre. Une petite chambre naturellement envahie par les pots de fleurs, les plantes vertes, tout ce qu'il pouvait cultiver dans une chambre.
Lorsqu'il arrive ici, rue Saint-Pierre de Montmartre, probablement en 1834, il va donc vivre là les trois dernières années de sa vie. C'est déjà un homme célèbre, au moins depuis 1830.
Oui. C'est-à-dire que c'est un gourou, comme nous dirions aujourd'hui, et que, comme pour tous les gourous, il y a des groupes qui se réclament de lui et que, peu à peu, mais très rapidement, toujours comme aujourd'hui, ces groupes se querellent et chacun veut l'approbation du maître. Ce qui fait que dans la toute petite chambre de la rue Saint-Pierre de Montmartre ont défilé Victor Considérant d'une part, et puis Transon, et puis Juste Muiron, et puis tous les dissidents, chacun expliquant à Fourier qu'il était le dépositaire de la vraie doctrine, de la vraie foi.
Juste Muiron, il le connaît depuis plus d'une vingtaine d'années déjà.
Ah, Juste Muiron, c'est le premier des disciples. Victor Considérant est venu bien plus tard, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Mais Victor Considérant est un organisateur, c'est un homme qui a un journal, qui change quelquefois de nom, mais qui garde toujours la même tendance. Et Victor Considérant réalisera finalement, mais après la mort de Fourier, le phalanstère fourieriste, la nouvelle harmonie au Texas. Mais malheureusement, ça s'effondrera et il aura les pires ennuis après y avoir englouti sa fortune, c'est-à-dire la dot de sa femme Julie, ainsi que la fortune de sa belle-mère, en plus de la dot, sa belle-mère étant Clarisse Vigoureux, la première disciple de Fourier, la femme qui l'a le plus aidé. Bien sûr, quand il est à rue Saint-Pierre de Montmartre, il revoit tous ses amis, mais il est à la fin de plus en plus enfermé en lui-même. Et il leur répond, jugez vous-même, je suis le prophète post-curseur, ça c'est en opposition au prophète précurseur d'avant Jésus, je suis le prophète post-curseur, à vous de dire la doctrine. Mais il est évident qu'il a un faible pour Victor Considérant, ça c'est absolument certain. D'autres viennent le voir, il est devenu véritablement un lieu de pèlerinage, mais il ouvre rarement sa porte. Et c'est avec d'autant plus de joie que je peux dire qu'il a été très heureux d'une visite féminine d'une femme qu'il ne connaissait pas, qui s'appelait Flora Tristan, qui venait d'un voyage très aventureux au Pérou et qui commençait à s'exprimer par écrit. Elle avait écrit une brochure disant qu'il faut venir en aide aux femmes étrangères. Et elle est venue apporter cette brochure au prophète post-curseur, à l'illuminé de la rue Saint-Pierre de Montmartre. Et je ne sais pas ce qu'elle lui a dit quand elle a frappé à cette porte pour qu'il ouvre, mais il l'a ouvert. Et il a été si heureux de cette visite qu'il est descendu lui-même à pied, parce que naturellement il ne prenait jamais un moyen de transport, jusqu'à la rue du Bac où habitait Flora, pour lui rendre sa visite, ce qui est une chose presque unique. D'ailleurs, ça c'est le sort, elle était sortie. Donc ils ne se sont vus que rue Saint-Pierre de Montmartre, dans la fameuse chambrette, dont les fenêtres étaient presque toujours ouvertes, pour que les chats nomades, eux aussi, puissent venir lui rendre visite.
Le philosophe âgé, à l'époque où il devint le gourou de la butte Montmartre, c'est au musée d'histoire de Besançon que nous en avons retrouvé l'un des rares portraits, et en tout cas le plus célèbre. Nous avons le grand portrait de Fourier par Jean Gigou, qui est évidemment le Fourier vieillard que nous connaissons.
Vieillard sans doute, mais il n'a rien perdu de ce feu fixe et intense qui donnait à tous ceux qui le croisaient l'impression soit d'un fou, soit d'un génie, soit des deux. Il est certain que personne n'a jamais été indifférent à Fourier. Et il est certain aussi que quand Flora Tristan est venue le voir, elle savait bien sûr que c'était Fourier, que c'était un socialiste, mais elle a été absolument éblouie par ce regard et parce que nous ne voyons pas sur le portrait son sourire. Car il savait sourire, contrairement à ce qu'on a dit.
Là, au contraire, c'est une bouche amère.
C'est une
avec
bouche
des plis
crispée.
Qui descend. Et c'est un portrait, d'ailleurs, grandeur nature, où Fourier est assis dans un paysage de montagne, assez sombre, assez orageux.
Symbolique.
Et il a les deux mains appuyées sur sa canne.
Oui. Et il a un regard
tout de même assez fixe, un peu fou.
Mais
ou en
c'est
même temps
le
un regard de visionnaire.
Fixe. Oui, c'est ça, c'est le grand visionnaire de Breton. C'est vraiment... Enfin, il est certain qu'il regarde au travers du peintre et de la réalité. Il est certain qu'il transperce quelque chose. Est-ce du délire de la création? Et comment, d'ailleurs, les départager? Je n'en sais rien. Mais le regard de Fourier, c'est toujours le regard de celui qui voulait subvertir le monde, les mœurs, la façon de vivre, les rapports entre les êtres. C'est-à-dire, bien plus qu'un régime économique, la condition même des humains les uns par rapport aux autres. Et c'est ça l'importance de Fourier. C'était ça, le Montmartre de l'époque.
C'est cette rue Saint-Rustique.
C'est la rue Saint-Rustique.
Qui est une des plus anciennes.
Une des plus anciennes. Et c'est comme ça qu'étaient les maisons, c'est-à-dire basses, grises, avec du lierre qui retombe, avec les oiseaux qui chantent.
Et très inégales, il n'y a aucun alignement.
Aucun alignement, pas plus que ne sont alignés les pavés. La rigole est au milieu de la rue, tout à fait comme au temps de Fourier. Il y avait sûrement des chats qui marchaient sur ces toits. D'ailleurs, il y en a encore. Voilà, un envol de pigeons, c'est tout à fait ce qu'il voyait. Et quand il était accoudé à sa fenêtre pour écouter les chanteurs et regarder passer les femmes, n'oublions pas que le plaisir de Fourier était avant tout un plaisir du regard, avant tout un plaisir des yeux, faut bien le dire. Et par conséquent, les belles montmartroises, que l'inégalité du pavé, le ruisseau au milieu de la rue obligeait à trousser leur robe assez haut, les belles montmartroises lui offraient un spectacle de choix. Alors, vous voyez, là, on voit une enseigne coiffeur qui n'a rien d'une boutique de coiffeur ordinaire. C'est un petit appartement où on rase et on coiffe. Bon, ben, je suis persuadée que les beaux cheveux blancs de Fourier ont été coupés plus d'une fois chez un coiffeur de ce genre. Chez
il n'y a même
barbier.
Pas de vitrine, il y a simplement une
non,
fenêtre.
Non, il n'y a rien. Vrai, c'est une fenêtre ordinaire. On entre comme dans un appartement ordinaire et là, on se livre au rasoir et aux ciseaux. Et les beaux favoris de Fourier, car il était très soigneux de sa tête. Il avait quand même tout à fait la certitude d'avoir un physique hors du commun.
Pourtant, il n'avait pas un physique très, très agréable. Je crois que son corps était même un peu difforme.
Difforme,
dans la mesure
non,
où il
très
avait
maigre.
Un bras atrophié.
Ah, mais alors voilà, le bras gauche... Et ça, alors, son père a vu les plus grands médecins, car ce commerçant était très soucieux de son fils unique. N'oubliez pas que jusque-là, il n'avait eu que des filles. Donc, le fils, c'est une sorte de miracle. Il y tenait beaucoup, et il était désespéré, le père Fourier, que le bras gauche soit plus faible que le bras droit. Et notamment, quand le petit Fourier était assailli par les autres gamins de l'école, c'est évidemment lui qui avait toujours le dessous, ce qui en a fait un rêveur, ce qui a sans doute été profitable pour nous. Et ce bras gauche n'a jamais regagné de vigueur, de sorte que Fourier le porte. portait repliée contre lui, ce qui donnait une certaine bizarrerie à sa silhouette et à sa démarche. De plus, il avait les épaules larges et il enfonçait facilement la tête dans les épaules.
Nous sommes descendus par la rue des Saules et nous arrivons sur les vignes de Montmartre. Et
voilà, la rue de l'Abreuvoir. Alors, comme vous savez que notre cher maniaque était aussi un maniaque de la marche, et il se fixait d'ailleurs des itinéraires méticuleux. Nous pouvons être sûrs, moralement sûrs, nous n'en avons pas la preuve, que la rue des Saules, la rue de l'Abreuvoir ont été arpentées par lui, certainement à certaines heures, et vous savez qu'il portait toujours une canne maître, avec laquelle il avait la manie de mesurer l'embrasure des fenêtres, la hauteur des portes, la hauteur des perrons. Et alors ici, j'imagine tout à fait, tenez, voilà les vignes, je suis sûr qu'il mesurait la hauteur des ceps de vigne, la hauteur du mur qui garantit le vignoble, et la hauteur du perron qui mène à cette vieille petite maison.
Les vignes devaient être beaucoup plus importantes à l'époque.
Ah oui, puisqu'on faisait une vraie vendange. Je ne sais pas, je ne crois pas que le vin ait jamais été très bon. Je crois que c'était toujours de la piquette, mais enfin, c'était la piquette du lieu. D'autre part, dans les jardins de Montmartre, c'était un des lieux où, à la belle saison, il donnait rendez-vous à l'un des 4000 milliardaires de France dont il attendait la visite chaque jour à midi pour qu'il finance son phalanstère d'harmonie.
Aux Archives nationales, nous retrouvons l'éditrice des œuvres complètes de Fourier, Simone Debout, en présence des manuscrits conservés dans le fonds Charles Fourier, Victor Considérant.
Ce qui est intéressant dans les cahiers qui n'ont pas été édités, c'est que là, il va aux limites de sa recherche, et pour comprendre les différences qu'il avait cru pouvoir calculer, il modifie complètement le système. Sa construction de départ suppose deux choses, en somme. Un panpsychisme, d'une part, c'est-à-dire qu'il dit que les passions sont types et modèles de tous les autres mouvements, d'une part. Et d'autre part, il fait un postulat encore plus étonnant, c'est que les passions, ces passions donc qui sous-tendent toute l'activité humaine, celle de l'entendement, de l'intelligence, de la raison, etc., comme toute l'activité pratique, ces passions sont structurées sur le modèle de la gamme. Et ainsi, il arrive à une sorte de raccourci extraordinaire, c'est-à-dire qu'à partir de la gamme chromatique, il refait le monde social et l'univers.
Alors moi, je voudrais que tu nous racontes comment, brusquement, tu es tombé sur ces manuscrits, sur l'ensemble du nouveau monde amoureux, manuscrits dont tu t'es subitement aperçu qu'ils n'avaient jamais été publiés.
Alors cette découverte, oui, je l'ai fait dans les papiers des archives que nous avons là autour de nous aujourd'hui. J'ai exploré ces foules de papiers, à l'aide aussi des inventaires qui avaient été faits, en particulier, je vous ai dit, celui de M. Poula, qui était très bien. J'ai regardé le détail de tout ça, et je me suis aperçu qu'il y avait des cahiers entiers, en effet, qui n'étaient pas publiés du tout, qui étaient ces cahiers 50 à 54, absolument inédits, sauf une phrase ou deux, expurgés d'ailleurs par les disciples, ce qui prouve en effet ce qu'ils voulaient faire avec cette entreprise. Ils avaient trouvé agréable de comparer Néron et l'éducation de Néron à celle qui pouvait être faite en harmonie. Alors, ils avaient cité une phrase où Fourier analysait la manie, dit-il, d'une dame russe qui martyrisait sa belle esclave. Et dans le texte original que j'ai publié, Fourier dit, on peut imaginer que c'était jalousie. Cette dame vieillissante était jalouse de sa belle esclave. En réalité, ce n'est pas ça du tout, dit-il. Elle était safienne sans le savoir. Et c'est ça, cette analyse du safisme et d'une espèce de paranoïa cachée comme cela et de persécution parce que cette dame n'arrive pas à satisfaire son amour qu'elle ne s'avoue pas à elle-même. C'est ça que les disciples avaient fait sauter. Donc, il ne restait rien de l'analyse. Et donc, c'est très clair ce qu'ils ne voulaient pas montrer. Ils ne voulaient pas montrer une analyse qui parlait de saphisme. Or, le saphisme est quelque chose qui intéresse beaucoup Fourier, beaucoup plus que l'homosexualité masculine.
C'est ça, sa perversion ?
Sa perversion,
c'est son goût pour...
subtil, il avait découvert, dit-il, il raconte ça dans Le Nouveau Monde Amoureux.
Son goût pour les lesbiennes ?
Voilà, il avait découvert dans une action où à laquelle il participait, dit-il, alors ça devait se passer à Lyon, sans doute.
À l'âge de 35 ans, ça te situe le lieu. Voilà. Il disait qu'il a attendu son âge de 35 ans pour s'apercevoir que son plaisir était de servir les safiennes. C'est bien ça, sa phrase.
Voilà, son plaisir était en effet de s'entremettre, le cas échéant, à leur plaisir, et selon leur volonté, et donc d'être... non seulement passifs, mais actifs dans leur plaisir, mais en tant que ce qu'il appelle pro-safien. Alors, en effet, c'est une manie étrange, et on peut faire toutes sortes de discours psychanalytiques sur cette manie étrange. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que le safisme, donc, des dames l'intéressait beaucoup. Alors, il raconte même, il fait des rencontres aussi, des trouvailles, comme toujours, très drôles. Par exemple, il rencontre un meuble venu de Chine, dit-il, et donc, il devait y avoir des gens comme lui en Chine. Il y avait, par exemple, un empereur qui était installé tranquillement au milieu de ses safiennes sur canapé circulaire et en bon exercice de plaisir.
Évidemment, Victor Considérant avait peur qu'en publiant des pages aussi explosives, il ne rende le fouriérisme encore plus singulier, plus marginal et plus mal vu des conformistes de la société de civilisation. Est-ce que c'est la seule raison que tu vois à cette occultation, en effet assez extraordinaire, pendant 130 ans, d'une œuvre entière? Et deuxièmement, comment, étant donné que cette œuvre remet en question beaucoup des choses qui avaient été publiées, le Fourier, comment est-ce que tu l'as réinséré dans l'ensemble de l'œuvre?
Si Victor Considérant a laissé tout cela de côté, c'est parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, une différence entre tout de même ses présupposés scientifiques et ceux de Fourier. Alors, tout le côté cosmogonique, tout le côté panpsychisme, il voulait le barrer autant que possible. Tout le côté des ultramondes, de prendre la mort pour aller dans une étoile, comme il aurait pu le dire lui aussi. Tout cela, ça ne coïncidait pas du tout. Et comme a dit Marx, c'était des bourgeois doctrinaires, ces orthodoxes, et c'était pas du tout des gens inspirés comme Fourier. D'autre part, il y avait dans ce texte quelque chose qu'il ne pouvait pas recevoir parce que c'est trop moderne, justement. Cette manière de chercher l'expression et la création au niveau des différences qui ne sont codées nulle part encore et dont on va inventer les raisons sur pièce, c'est quelque chose qui n'était nulle part, qui aurait pu être compris peut-être par des poètes ou par des romanciers, mais certainement pas par les disciples de Victor Considérant.
Vous pouvez nous montrer les autres documents qui sont ici?
Alors, les autres documents qui sont ici, il y a des choses curieuses. Ce sont les lettres de sa nièce. Parce que toute cette histoire du Nouveau Monde Amoureux a été créée par lui pendant une période où il se trouvait près de ses nièces. Il avait hérité d'un petit bien de sa mère qui lui avait laissé une petite rente viagère, et alors tout à coup il avait abandonné ses travaux qui étaient des travaux de seconde œuvre, de seconde zone, mais où il n'était pas tellement malheureux finalement parce qu'il gagnait assez d'argent, mais tout à coup il a abandonné tout cela, il est allé s'installer près de ses nièces. Or, ses nièces, elles étaient abandonnées par leurs parents. Le père était mort, il était sous-préfet de Belley, et la mère était internée. Elle avait eu beaucoup d'enfants, elle était devenue déprimée, enfin, elle était internée, elle a fini sa vie dans un asile.
Alors, c'était la sœur de Fourier.
Alors, c'était la sœur de Fourier, en effet. Et ses nièces, c'était quatre filles de cette sœur. Il y avait deux frères qui faisaient leurs études à Paris, deux plus jeunes, et ses quatre nièces abandonnées. Alors lui, il s'en va pour s'occuper un peu de ses nièces. Il y en avait une qui avait voulu se marier, Fanny, l'aînée. Il avait dit que le prétendant pouvait prétendre au ciel quant à son esprit, tant qu'il était sot. Et il l'avait écarté, donc il s'était déjà mêlé de loin de l'avenir de ses nièces. Une fois de près, il a été dans une espèce d'intimité très curieuse avec ses nièces. Alors il en parle d'ailleurs, il parle de l'inceste mignon d'un oncle pour ses nièces, inceste qu'il n'a pas accompli sans doute, mais dont il a eu le désir certainement. Des complications infernales sont nées entre ses nièces et lui. Elles menaient une vie très dévergondée, ses nièces. Donc c'est elle qui le poussait et qui le séduisait, et en même temps qu'il repoussait. Il y avait les deux. Il n'était pas très séduisant et Et il a été très lié à un moment avec l'aîné de Seignage, ou la seconde, je ne me rappelle plus très bien leur ordre, Hortense, qui était intelligente, dit-il, et qui lui faisait des remarques très pertinentes sur ses travaux. Et puis également très lié avec Clarisse, qui, dans les poses de danseuse, dit-il quelque part, lui donnait dans l'œil. Bon, eh bien, ces poses de danseuse qui lui donnaient ainsi de tels plaisirs, lui ont aussi permis des privautés qui n'ont pas plu aux nièces, ou au contraire qui ne leur entrent plus, enfin on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais des drames. Et ils se sont séparés pendant un moment, il est revenu habiter Belley, mais à la fin de sa vie, en 1836, il y a une lettre en particulier très tendre de cette Clarisse qui lui dit qu'elle voudrait beaucoup avoir de ses nouvelles, qui lui confie tous ses malheurs et qui lui dit « j'ai besoin de votre affection plus que jamais », ce qui veut dire que c'était des disputes affectives très violentes, mais qui gardaient et qui sauvegardaient quelque chose de plus important finalement que la dispute elle-même.
« Mon ami, vous êtes tout pour moi maintenant. » Est-ce qu'on écrit ça à un oncle ?
Ben voilà, évidemment. Et il avait été sans doute tout pour elle à un entretemps.
Fourier, le gourou des dernières années, va pourtant être saisi par la mort solitairement le 9 octobre 1837.
Oui, alors là, nous pouvons imaginer ce que nous voulons, car cette mort a eu lieu plusieurs heures ou plusieurs jours, mais longtemps avant que la concierge, en montant, parce que justement elle ne voyait plus jamais son locataire, le découvre agenouillé au pied de son lit. Et était-il en train de prier ou était-il en train d'élaborer une dernière doctrine pour le bonheur humain, car il lui arrivait de se jeter à genoux par admiration devant sa propre pensée, ça lui arrivait. Mais il est probable qu'il sentait sa fin venir et qu'il s'adressait à ce Dieu dans lequel il croyait, mais dans lequel il croyait en un christianisme très fourriériste, comme il y avait un néo-christianisme saint-simonien, il y avait un christianisme fourriériste, c'est-à-dire qu'il tirait Jésus à lui. Et Jésus était l'annonciateur de Fourier, comme Jean-Baptiste a été l'annonciateur de Jésus, puisque Fourier était le post-curseur. Et quand le post-curseur est mort...
Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il est un peu le fondateur d'une nouvelle religion, en même temps que d'un nouveau système social ?
Alors, il l'aurait bien voulu, parce que pour lui, religion et système social ne faisaient qu'un, comme pour Saint-Simon d'ailleurs. Alors, si vous voulez, Marx n'a jamais osé dire que son système remplacerait la religion, mais comme il a dit que la religion était l'opium du peuple et que lui en était la véritable médication des maux du peuple, c'est bien ce qu'il pensait. Tous les faiseurs de grands systèmes pensent qu'ils sont les remplaçants de la religion en cours. Seulement, Fourier, tout comme Saint-Simon, ne répudiait pas Jésus, ne répudiait pas le christianisme. Simplement, il trouvait qu'il était accaparé par l'Église, par le clergé, et qu'il fallait lui rendre sa pureté primitive, ce qui, depuis, n'a pas cessé d'être la préoccupation des rénovateurs du christianisme.
Et le libérer de son puritanisme.
Ah, Alors là, non seulement cela, mais comme toutes les passions et tous les désirs ont été créés par Dieu, ils sont tous bons. Il n'y a pas de mauvaise passion, il n'y a pas de mauvais désir, si étrange qu'il peut paraître, n'est mauvaise que la mise en application d'un désir qui gêne le désir des autres. La seule limite de votre désir, quel qu'il soit, quelle qu'en soit l'apparente aberration, c'est le désir de l'autre, sur lequel on n'a pas le droit d'influer, enfin on n'a pas le droit de le limiter en tout cas. Donc on limite le sien, et c'est ça l'harmonie.
La théorie d'immortalité de l'âme embrasse le passé comme l'avenir. Si l'âme est immortelle au futur, elle l'a été au passé. Dieu ne créant rien de rien, n'a pu former nos âmes de rien. Si l'on croit qu'elles n'existaient pas avant le corps, on est bien prêt de croire qu'elles retourneront au néant d'où nos préjugés les font sortir. Les barbares et sauvages, dans leur fable grossière de métempsychose, ont été par instinct plus judicieux que nous. Ce dogme approche en double sens de la vérité. Premièrement, en ce qu'il ne fait pas naître nos âmes de rien. Deuxièmement, en ce qu'il n'isole pas nos âmes de la matière, ni avant, ni après cette vie. Voilà du moins des lueurs de sagesse, dans les fictions qui sont l'ouvrage de barbares. Et ce n'est pas la première fois que des nations brutes se sont montrées plus voisines du bon sens que les orgueilleux civilisés. Charles Fourier, Théorie de l'unité universelle.
De Santi, vous avez souhaité rencontrer Henri Desroches, qui est avec nous aujourd'hui pour parler de la religion selon Fourier.
Je crois que Henri Desroches est absolument indispensable dans un débat sur Fourier, car La société festive est un livre clé. Et après cela, il a encore publié Les dieux rêvés, qui sont précisément un livre consacré des rapports des utopiens avec Dieu.
Alors l'originalité de Fourier et de son socialisme utopique, c'est que ce n'est pas un socialisme athée.
C'est un socialisme où Dieu, mais c'est Henri Desroches qui nous le dira beaucoup mieux que nous ne saurions le dire, où Dieu est changé de signe, je crois, n'est-ce pas, Henri Desroches, on pourrait dire ça.
Est-ce à cause de l'importance de la formation religieuse dans l'enfance de Fourier?
Probablement, mais je crois que de toute manière, aucun des socialismes utopiques français n'est athée. Mais tous sont anticléricaux, anti-ecclésiastiques, et optent pour un dieu qui serait passé par un aggiornamento radical. Il se considérait un peu comme, presque comme un messie de la raison.
Donc vous voyez le dieu de Fourier hérité directement du christianisme.
Oh, c'est compliqué.
Et non pas lié aux religions de l'Antiquité, voire au bouddhisme.
Personnellement, je pense que c'est une résurgence d'une religion de l'Antiquité qui n'a pas connu le taoïsme. Mais il s'en est pris à tous ceux qui parlaient de religion autour de lui, y compris à Lamennais, le demi-croyant, comme il dit. Il était contre ces cocktails de jacobinisme et de religion. Il était contre la franc-maçonnerie. Il était contre le théophilanthrope. Il avait connu tout ça de première main à Lyon. Il y avait un grand coup à faire en matière de religion, dit-il. Mais j'ai pas voulu le faire parce que moi je veux pas me compliquer la vie. Il a d'ailleurs interpellé le pape qu'il avait mis à l'index en disant comment j'étais votre meilleur allié et vous m'avez mis à l'index, ça ne se fait pas. La seule religion qui lui plaisait un peu, parce qu'il voulait une religion avec un dieu qui était la cible, comme il disait, d'une foi composée, d'un athéisme composé. C'est quoi, pourquoi j'ai baptisé sa religion plutôt un uthéisme qu'un athéisme ou un théisme. C'est un dieu tel qu'il aurait pu être et tel qu'il n'a jamais été jusqu'à ce que Fourier l'annonce. D'ailleurs, quelque part, il dit j'annonce un dieu mécanicien, équilibriste, jouant sur toutes les passions. Mais la religion qui lui plaisait le plus, c'est l'islam. Mais avec le handicap terrible que c'était une religion masculine qui avait complètement évacué la la deuxième partie de l'humanité à laquelle il attache toute importance, puisque selon lui, les progrès d'une civilisation, vous connaissez le texte, se mesurent au statut qu'elle réserve aux femmes.
Mais alors ce Dieu tel qu'il devrait être, qu'il définit, est-ce une sorte de nécessité, de raison pour sa théorie de l'unité universelle, dont il fait un peu le pivot, ou est-ce que c'est un Dieu de foi hérité justement de
C'est un Dieu de foi, d'espérance et de charité, mais là, des grands chapitres sur la décrépitude des vertus théologales telles qu'elles sont prêchées, qu'elles sont des vertus simples, fatalistes, irrationnelles, et il a des grandes pages sur la nouvelle foi, la nouvelle espérance et la nouvelle charité.
Qui sont, si j'ai bien compris, une espèce de mélange assez singulier de raison et de passion, de passion raisonnée.
De passion raisonnée. Le concept de composer joue toujours un très grand rôle. Le plaisir composé, la foi composée, l'athéisme composé, fallait toujours, et en particulier, comme vous le dites, entre la raison et la passion.
Et il essaie de définir un peu quel peut être le libre arbitre de l'homme vis-à-vis de la volonté de Dieu, puisque le plaisir doit être des deux côtés. Le plaisir de commander du côté de Dieu et le plaisir d'obéir du côté de l'homme.
C'est lui qui a écrit tout ce qui se fait par contrainte, peu importe la marque d'une absence de génie.
Par conséquent, Dieu ayant du génie...
Dieu a créé l'attraction, cette baguette enchantée. Et les hommes ont commis le crime de ne pas avoir connu le secret de ce mécanisme. Si on découvre l'attraction...
On découvre Dieu.
On découvre Dieu. Il dit, nous sommes comme des abeilles dans une île où il n'y a pas de fleurs. Alors, mais elles ont en elles la passion de butiner les fleurs. Ce qu'il nous faut, c'est créer une île où il y a des fleurs, et à ce moment, toutes les passions vont se déployer pour le plus grand bonheur et pour le plus grand triomphe de ma religion, qui est la religion des voluptés.
Donc c'est toujours une conception d'un Dieu créateur et un peu horloger du monde.
Oui, mais un Dieu complice de l'homme et un homme complice de Dieu, c'est ce qu'ils reprochent à ceux. Et ils disent tout sur l'homme ou rien sur Dieu, ou tout sur Dieu et rien sur l'homme. Moi je dis tout sur l'homme et tout sur Dieu.
Oui. Mais quel est le rapport justement entre l'harmonie qui doit exister en ce monde et puis la vie d'au-delà de
plus nous serons heureux en ce monde, il le dit, et plus nous délivrerons les âmes du purgatoire.
Donc il y a un lien direct.
Oui, il y a un lien direct.
Et une responsabilité des hommes.
Responsabilité, oui.
Dans l'établissement de cette harmonie universelle.
En somme, une responsabilité des hommes actuellement vivants dans le sort de l'humanité passée.
L'humanité souffrante, oui, qui est quelque part dans les limbes ou au purgatoire, qui attend sa délivrance.
Oui, mais alors ça, je trouve que c'est
poli,
un...
Hein.
Oui, c'est très très
Saint
intéressant.
Saint Paul a dit, toute la création attend l'enfantement.
Et il donne la primauté tout de même à l'action en cette vie, et non pas en l'espoir dans l'autre.
Ah non, ça c'est, il est, c'est le grand péché d'avoir transféré l'espérance dans un monde de l'au-delà, alors que c'était le dessein de l'Évangile, qui était méconnu jusqu'à Fourier, de nous donner le code du bonheur ici-bas.
Donc c'est une accusation directe de la religion catholique.
De la religion catholique, des soi-disant philosophes athées qui ont fait la même chose, quoi.
Lorsque Charles Fourier vient s'installer ici, à Montmartre, probablement vers 1835, est-ce que c'est un lieu où se réunissent les esprits brillants de l'époque ?
Ah ben ça commence. Le premier à s'être installé, c'est tout près d'ici, rue Ravignan, Alphonse Carr, l'exact opposé de Fourier. C'était le journaliste parisien, il publiait un pamphlet qui s'appelait « Les guêpes » et qui piquait naturellement tous les notoires du jour, qui piquait fort quelquefois, et lui recevait Alexandre Dumas, Gavarni, bien d'autres, et beaucoup de jolies dames. Alors Fourier a-t-il même eu l'occasion de passer devant l'ancienne guinguette nommée le poirier sans poire qu'avait aménagé Alphonse Carr je ne sais pas. Et puis, il y avait aussi un dessinateur de mode qui s'était installé tout près. Et cette maison devait être démolie et remplacée, c'est ça qui est curieux, par une autre maison qui reste alors très fort dans l'histoire de l'art, mais du début du 20e siècle, sur l'emplacement du poirier sans poire devait s'élever le bateau lavoir de Picasso et de toute l'école constructiviste, fauve, cubiste du temps.
Dans la France de 1837, quelles sont les réactions à la mort de Fourier, à Besançon, à Lyon, à Paris ?
Alors, à Besançon, à Lyon, à Paris et même dans bien d'autres endroits de France, il y avait des groupes fourriéristes. Et pour ces groupes fourriéristes, c'était le grand deuil célébré avec des cérémonies, avec des lectures de textes. Mais il y avait au fond des dirigeants des divers groupes fourriéristes généralement brouillés les uns avec les autres. Il y avait aussi un certain soulagement parce que désormais on pouvait faire parler le grand mort chacun à sa manière. Fourier me disait que, et c'était toujours naturellement la confirmation de la doctrine de celui qui parlait. Mais même en dehors des cercles fourriéristes, dans tous les cercles qui avaient l'impression qu'il fallait que la société change, parmi ceux qu'on peut appeler d'un nom générique de socialistes de l'utopie, de coopératistes, la figure de Fourier n'a cessé de grandir à cette époque-là. Et on s'est dit, il a vraiment prédit ce qui ne peut pas manquer de se produire. Et puis ensuite, très peu de temps après, enfin à la Révolution de 48, si vous voulez, à la Révolution de 48, il y avait encore des groupes fourriéristes constitués, en assez bon nombre, et Victor Considérant a été élu député, lui le disciple favori. Donc la mémoire de Fourier était très vivement défendue, mais en même temps, les marxiens ont commencé leur propagande et il est certain que si on cite les socialistes utopiens français parmi les précurseurs de Marx, le marxisme les a complètement oblitérés. D'ailleurs, ce nom d'utopiste faisait qu'on ne les prenait plus au sérieux. Les marxistes, c'étaient les socialistes scientifiques. La science, c'était beau. À cette époque, on ne mettait pas la science en question, c'était la vérité, la science. Donc, l'utopie, c'était le rêve. Et au lieu de se dire « l'utopie d'aujourd'hui, c'est la vérité de demain », on se disait « nous avons dépassé ces utopies et nous détenons désormais la vérité ». Et c'est pourquoi il y a eu ce long sommeil de Fourier qui a été ressuscité, et ça n'est vraiment pas un hasard, c'est merveilleux que ce soit arrivé ainsi, par André Breton. Car qui mieux que Breton pouvait comprendre, lui, Breton, qui voulait subvertir la société par le langage, qui pouvait mieux comprendre Fourier jusque dans ses délires les plus fous ?
Fourier, il est par trop sombre de les voir émerger d'un des pires cloaques de l'histoire. Épris du dédale qui y ramène, impatient de recommencer pour mieux sauter sur la brèche, au premier défaut du cyclone, savoir qui reste la lampe au chapeau, la main ferme à la rampe du wagonnet, suspendu, lancé dans le poussier sublime. Comme toi, Fourier, toi tout debout parmi les grands visionnaires, qui crut avoir raison de la routine et du malheur, ou encore, comme toi, dans la pose immortelle du tireur d'épines. On a beau dire que tu t'es fait de graves illusions sur les chances de résoudre le litige à l'amiable, à toi le roseau d'Orphée. D'autres vinrent, qui n'étaient plus armés seulement de persuasion. Ils menaient le bélier qui allait grandir, jusqu'à pouvoir se retourner de l'Orient à l'Occident. Et si la violence nichait entre ses cornes, tout le printemps s'ouvrait au fond de ses yeux. Tour à tour, l'existence de cette bête fabuleuse m'exalte et me trouble. Quand elle a donné de la tête, le monde a tremblé. Il y a eu d'immenses clairières qui, par places, ont été reprises de brousse. Maintenant, elle saigne et elle paie. Je ne vois pas le pâtre omnitone qui devrait en avoir la garde.
pourvu qu'elle reste assez vaillante pour aller au bout de son exploit. On tremble qu'elle ne se soit contaminée dès longtemps près des marais, sous la superbe toison si sournoisement elle est s'élaborer des poisons. André Breton, ode à Charles Fourier.
Il fallait peut-être que l'expérience du socialisme scientifique aille plus loin et montre ses premiers échecs.
C'est-à-dire, il fallait qu'on soit déçu. Mais bien sûr, il fallait qu'on soit déçu. Alors, si vous voulez, André Breton a été déçu très vite. Puisque si en 1925, le groupe entier des surréalistes a demandé au Parti communiste français, qui n'avait que 5 ans d'existence, à adhérer en groupe tout en poursuivant leur politique culturelle, ce qui était donc totalement utopique, dès le début des années 30, Breton était, même avant les années 30, dès l'exclusion de Trotsky, Breton s'est déclaré trotskiste, par conséquent, le socialisme utopique reprenait pour lui la beauté des rêves non réalisés et donc réalisables. Ce à quoi on pouvait encore rêver. Et peut-être maintenant que nous venons de parler de la mort de Fourier, n'est-il pas indifférent de rappeler que l'ode à Fourier d'André Breton a été écrite au moment où la France était occupée par les nazis, c'est-à-dire où il n'y avait pas pour Breton réfugié aux États-Unis d'espoir présent, d'espoir dans une société présente. Et c'est à ce moment-là que la parole de Fourier a pris pour lui une intensité telle qu'il s'est écrié « Ô toi, Fourier, debout parmi les grands visionnaires !» Car il ne pouvait avoir de confiance qu'en une vision qui puisse balayer pour l'avenir un présent atroce.
Nous venons de la dernière demeure de Fourier. Nous sommes descendus de la butte Montmartre, du parvis de Saint-Pierre de Montmartre, jusqu'au cimetière Montmartre. Nous avons eu quelques mal à trouver la tombe de Fourier,
oui.
Parce qu'il faut dire que, en nous adressant à la conservation, on nous a regardés avec des yeux tout ronds, très surpris, car même le nom de Charles Fourier semblait ne rien dire aux conservateurs du cimetière.
Pas plus que si c'était appelé Jean-Martin. Alors
et pourtant,
ils ont été
il doit passer quotidiennement, en venant ici dans le cimetière, devant le socle de la statue de Charles Fourier, où il y a encore l'inscription, mais malheureusement, il n'y a plus la statue en bronze.
Oui, alors la statue en bronze a été enlevée lors de l'occupation, comme la plupart des statues en bronze, pour être fondue. Mais après 1968, sous la conduite d'un fourieriste distingué, le philosophe René Scherrer, on a retrouvé un plâtre qui représentait Fourier, un buste de Fourier. Et les étudiants des Beaux-Arts et quelques admirateurs ont amené ce plâtre, l'ont reposé sur le socle, à côté du lycée Jules Ferry, donc. Et on était là, on a fait une petite cérémonie. Et on a déposé des fleurs, des banderoles. Dans la nuit, la police est venue et a enlevé le buste de Fourier, comme si Fourier, encore aujourd'hui, était absolument insupportable à tout pouvoir établi, quel qu'il soit.
En descendant l'avenue Sanson, ici, à l'extrémité vraiment de ce cimetière Montmartre, nous avons fini par trouver en deuxième ligne, c'est-à-dire en retrait par rapport à l'allée, la tombe de Fourier. Je dirais presque que c'est une tombe presque anonyme. En tout cas, elle n'est surmontée d'aucun monument, d'aucun buste. C'est une pierre presque au ras du sol, légèrement inclinée, avec seulement une inscription sans croix dessus, et qui est entouré d'une
grille avec
petite
des pommes
grille, une petite
de
barrière.
Oui, une petite barrière à pommes de pin.
Alors, il y a une longue inscription tout de même.
Ici sont déposés les restes de Charles Fourier, né à Besançon le 7 avril 1772, mort à Paris le 10 octobre 1837. Et en dessous, la série distribue les harmonies, les attractions sont proportionnées aux destinées. C'est ainsi que Considérant, probablement, Victor Considérant, a voulu résumer l'œuvre de son maître. C'est amusant de penser que Victor Considérant a cru que le plus important de l'œuvre de Fourier, c'était que la série distribue les harmonies, c'est-à-dire que les mathématiques régissent l'harmonie musicale du monde futur, et que les attractions, c'est-à-dire, n'oublions pas, les passions, sont proportionnées aux destinées, ce qui veut dire, en français plus courant, à chacun selon ses désirs.
L'enterrement a eu lieu donc ici, le
11 octobre 1837.
Et c'est Victor Considérant qui a prononcé le discours sur la tombe ouverte de Fourier.
Bien sûr, puisque c'est le chef des fourriéristes officiels. Et alors, il a prononcé des paroles marquantes. Il a prononcé un long discours, en réalité. Mais extrayons-en... il était toujours exalté. Et il avait déjà la barbe. Plus tard, on dira, c'est une vieille barbe 48 arde. Là, nous sommes en 1837, c'est une toute jeune barbe. Et il a dit, je suis à Fourier ce que Mahomet était à Dieu, ce que Saint-Pierre était à Jésus-Christ.
Alors, notons, le fondateur de l'Église.
Et oui, mais alors c'est très intéressant parce que Dieu le Père, le Dieu unique, c'était le Allah pour eux, dont Mahomet est le prophète. Et autre chose très curieuse, c'est Saint-Pierre. C'est pas Jean, c'est aucun des disciples. C'est Saint-Pierre, le fondateur de l'Église, par rapport à Jésus, qui est réincarné en Victor Considérant pour le monde de la nouvelle harmonie.
Il y avait beaucoup de monde à cet enterrement ?
Il y avait les fourriéristes, il y avait Julie, la femme de Victor Considérant, et il n'avait pas encore vécu l'expérience désolante de la nouvelle harmonie au Texas, de sorte qu'ils étaient encore pleins d'espoir en la possibilité de construire le monde harmonien, ou au moins un garantisme, puis un sociantisme qui, par une espèce de saut, devait conduire un jour en harmonie.
Sur cette tombe, il y a trois petites couronnes en faïence avec des pensées. À la différence d'un certain nombre des tombes de ce cimetière, nous sommes passés par exemple devant la tombe de Hein où il y a des couronnes, fleurs. Des fleurs qui sont renouvelées très souvent. Cette tombe de Fourier, au contraire, personne n'y a rien déposé.
Mais elle est complètement moussue, perdue.
L'inscription, nous avons dû d'ailleurs pour pouvoir la lire, dégager
la
mousse qui était sur
mousse.
Les lettres.
Et c'est que
est-ce que ça veut dire qu'il est complètement oublié ?
Non, justement. C'est que Fourier survit autrement que dans le culte de sa personne. Et des fourriéristes, eh bien, j'en ai rencontré, par exemple, à l'époque où on croyait pouvoir construire un nouveau monde harmonieux. Et j'ai rencontré aux États-Unis, en Californie, des jeunes gens qui formaient une commune et qui m'ont accueilli en disant « On nous a dit que vous vous occupiez de Charles Fourier, c'est un passeport suffisant pour que vous soyez notre ami. » Et je leur disais « Mais vous avez lu Charles Fourier ?» Ils m'ont répondu « Non, mais on nous en a parlé. » Donc Fourier était pour eux la rumeur d'un monde harmonieux. Et évidemment, ces jeunes gens, même s'ils faisaient le voyage d'Europe, comme on dit là-bas, et s'ils venaient à Paris, je ne crois pas qu'ils auraient l'idée de chercher la tombe de Fourier. Je crois que Fourier n'est pas un homme pour les tombes. Il est plutôt un homme pour le chant et le rêve.
Desroches, comme vous êtes également, je crois, le meilleur spécialiste des post-fourriéristes, de ceux qui ont tenté de faire vivre le fourriérisme dans l'action. C'est-à-dire, on crée des communautés où ils appliquaient les principes fourriéristes. Mmh. Pourriez-vous nous parler de quelques-unes de ces communautés, et notamment de celles qu'on a tenté de créer aux États-Unis et qui alors étaient tout à fait fondées sur une foi en Dieu, en plus.
Il faut dire que le projet fourriériste était à deux volets. Un nouveau monde commercial et un nouveau monde amoureux. 90% des postérités fourriéristes ont essayé de cultiver le nouveau monde commercial. Mais ils ont soigneusement marginalisé, évacué, occulté même l'autre partie du message de Fourier.
Mais ils ne le connaissaient pas.
Si, les premiers le connaissaient très bien, mais ils l'ont occulté. Même les réalisateurs, puisqu'il y a eu deux postérités en France, une plutôt orthodoxe, dite orthodoxe, et l'autre les réalisateurs, même les réalisateurs, comme de Bonnard, comme les autres, n'ont pas connu cette partie de Fourier, et en tout cas n'ont pas essayé de la mettre en pratique. C'est, comme vous le disiez, c'est aux États-Unis que, dans l'ignorance totale de cette partie de l'œuvre de Fourier, des communautés américaines, deux ou trois, ont réinventé cette partie de l'œuvre de Fourier, en reprochant à Fourier d'ailleurs de ne pas l'avoir promulguée.
Oui, on lui reprochait de n'avoir pas fait de nouveau monde amoureux, alors qu'il en avait fait un, mais que les gens de Néda, par exemple, ignoraient, bien entendu.
Alors, ils l'ont réinventé. Il faut dire que l'atmosphère était propice à ce moment-là, c'était le milieu du 19e siècle américain. Il y avait des multiples expérimentations. On peut dire qu'on a expérimenté toutes les manières d'être entre hommes et femmes dans ces communautés. Mais il y en avait quand même une aile radicale qui disait, en tout cas, on ne peut pas réaliser une communauté de biens si aussi longtemps qu'un homme et une femme s'appartiennent exclusivement l'un à l'autre. Aussi longtemps qu'un homme est la propriété d'une femme ou la femme la propriété d'un homme, on ne peut pas faire une communauté. Alors il y avait deux manières de résoudre ce problème, ou bien de proscrire tout lien conjugal, c'est-à-dire de créer des espèces de monachisme mixte, c'est ce qu'on fait un certain nombre, en particulier les Shakers, que j'ai étudié autrefois, ou bien prescription du mariage de tous avec toutes. Fourier avait toujours insisté que son message de mon nouveau monde amoureux est un message composé. Ouais, c'est-à-dire, c'était pas, il y a deux éléments, comme il disait, la copulation, le coït, enfin, matériel, et la céladonie, l'amour chaste.
Oui.
L'amour romantique, l'amour à la dame, quoi, l'amour courtois. Et il disait, il faut trouver un moyen de pratiquer les deux.
Ah, mais d'ailleurs, celui qui avait une passion pour un membre de la communauté, une femme, pratiquait en même temps la céladonie avec d'autres.
Oui, c'est ça. Alors, cette communauté qui a duré 30 ans, il y a eu 300 personnes, c'était une communauté agricole et agro-industrielle, très prospère d'ailleurs, et où il n'y avait pas de mariage. Ceux qui entraient mariés se démariaient, c'était le premier rite religieux, se démariaient. Et ensuite, il y avait une discipline, des partnerships, avec d'ailleurs la clause fourriériste, vous savez, des classes d'âge, les plus anciens en âge ou en vertu, devaient servir de médiateurs. Un homme ne devait pas demander à une femme ou une femme à un homme d'être ensemble. On devait passer par un médiateur plus âgé en âge ou en vertu.
Donc les passions ne s'exprimaient quand même pas dans une totale liberté, ou du moins pas anarchiquement.
Il y avait une discipline. Il y avait des actes amoureux qui étaient amatifs, et des autres actes amoureux qui étaient propagatifs. Mais on maîtrisait tout ça.
Est-ce que vous savez si maintenant, dans les années, la fin des années 70 et donc le début des années 80, il y a encore des communautés se réclamant de Fourier, ceux que j'ai rencontrés en 68 en Californie?
Oui, il y en a. Ce sont des fous qui veulent escalader le ciel, comme disait Emerson. Mais régulièrement, ce sont des champignonnages. Comme disait Charles Gide, la preuve d'un modèle social, la preuve de sa vitalité, c'est pas qu'il dure, c'est qu'il renaisse. Or, je constate, ça renaît tout le temps.
Un homme, une ville, Charles Fourier à Paris avec Dominique de Santi, par Jean Montalbetti. Cette troisième et dernière émission avait pour thème le gourou de la butte Montmartre, avec la participation de Simone Debout et d'Henri Desroches. La lecture de Charles Fourier extraite de la théorie de l'unité universelle et l'ode à Fourier par André Breton ont été dites par Claude Riche. Prise de son en extérieur, Jean-Claude Aimé. Mixage, Bernard Charon. Réalisation Daniel Fontanarosa et André Mathieu.
Ces émissions ont été diffusées le 18 et 25 avril 1980.